Cher Lionel, c'est à ton tour et donc nous t'écoutons pour 3 quarts d'heure aussi sur la question très particulière qui est donc les étudiants internationaux, les politiques migratoires en matière de, enfin, pour attirer, accueillir les étudiants internationaux et particulièrement le cas de la France, mais en fait, comme on va le voir, bien sûr, tu t'appliques à faire de la comparaison internationale. On a vu l'importance que ça a. Comment la France se situe-t-elle dans l'accueil des étudiants internationaux par rapport à ses pays concurrents? Et voilà, comment fait-elle son marché, en quelque sorte, dans le monde des étudiants internationaux? À toi la parole.
Merci François, bonjour à tous. Avant de commencer mon propos, je tenais à remercier François Héran, le professeur François Héran, pour son invitation à intervenir dans le cadre de son cours de cette année, destiné précisément aux politiques migratoires de par le monde. Donc, c'est très volontiers que j'ai accepté de faire ce séminaire dans le cadre de ce cours, d'autant plus que précisément, je viens de terminer un travail de recherche avec un collègue. Michel Ben, qui est professeur à l'Université du Luxembourg, sur une évaluation d'un exemple de politique migratoire et en particulier une évaluation de l'impact qu'a pu avoir la mise en place de Campus France, donc une institution française qui a été mise en place au milieu des années 2000 pour accroître l'attraction des étudiants étrangers. Pour attirer plus d'étudiants étrangers dans le système universitaire, le système d'enseignement supérieur français. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter dans le cadre de ce séminaire, hein, cette évaluation de politique économique. Et on verra que ce n'est pas toujours simple de donner une évaluation assez rigoureuse des impacts qu'a pu avoir une politique économique, et en particulier lorsqu'il s'agit de politique migratoire. Alors, je vais utiliser quelques transparents. Pour éclairer tout cela. Très bien. Alors, comme toujours, avant de développer cette politique, hein, la mise en place de Campus France, il faut rappeler un peu le contexte dans lequel elle s'inscrit. Ça permet de l'éclairer, ça permet de la comprendre et ça permet de juger aussi des impacts, c'est-à-dire par rapport aux objectifs qui étaient recherchés. Et donc, le contexte, c'est que depuis plusieurs décennies, on connaît une forme assez avancée d'internationalisation de l'enseignement supérieur. Internationalisation de l'enseignement supérieur, ça peut prendre deux formes, deux canaux principaux qui vont être à l'origine de cette internationalisation de l'enseignement supérieur. Le premier canal, c'est la mobilité des programmes éducatifs. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ce sont des établissements qui vont s'implanter à l'étranger pour former sur place plus d'étudiants. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup pratiqué par les établissements d'enseignement supérieur en France. Il y a quelques grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Il y a des exemples avec Paris 1 qui s'est implanté à l'étranger. Mais c'est relativement rare. Et ce n'est pas le canal le plus important de cette internationalisation de l'enseignement supérieur. Le canal principal, c'est, au lieu que ce soit les établissements qui se déplacent, ce sont bien les étudiants qui se déplacent pour venir rejoindre un établissement dans un autre pays, c'est-à-dire la mobilité des étudiants. Et on parlera donc des étudiants en mobilité internationale. Et là, ça renvoie à une définition très précise, hein, donc je mets un petit encadré pour qu'il y ait bien cette définition, c'est-à-dire on appellera un étudiant en mobilité internationale un individu qui a physiquement traversé une frontière, donc c'est bien un migrant, hein, il a traversé une frontière internationale entre deux pays dans le but de participer à des activités éducatives dans un pays de destination. Lorsque le pays de destination est différent de son pays d'origine. Alors, oui, bien, c'est un migrant, traverse une frontière, mais dans un but très précis, qui est celui d'aller se former dans un autre pays, pour diverses raisons, mais que je ne vais pas aborder ici, on n'en a pas trop le temps. Le point qui me paraît important de préciser, c'est que, du coup, et Gérard Moreau l'a rappelé dans son intervention précédente, il faut bien faire attention aux statistiques et de la mesure. Vous allez trouver dans les statistiques deux mesures. Bon, on va avoir une mesure des étudiants étrangers. Et puis, on va avoir une mesure des étudiants en mobilité internationale. Et ce n'est pas la même chose, hein. Les étudiants en mobilité internationale font partie des étudiants étrangers, mais les étudiants étrangers, ça va au-delà. Et donc, qu'est-ce qui se rajoute dans les étudiants étrangers aux étudiants en mobilité internationale? Eh bien, ce sont précisément des étudiants qui sont bien dans un système d'enseignement supérieur à l'étranger, ils ont une nationalité étrangère par rapport au pays dans lequel ils font leurs études, mais ils ont migré avant. C'est-à-dire que, exemple fréquent, et c'est une part importante en France, par exemple, ils ont migré avec leurs parents. Et donc, ils sont en France depuis leur enfance, et ils se retrouvent dans l'enseignement supérieur français parce que c'est la suite logique des études qu'ils ont engagées dès le collège, dès l'école primaire en France. Donc, ils n'ont pas migré spécifiquement pour rejoindre l'enseignement supérieur français. Je prends l'exemple français. Donc, vous voyez bien, alors qu'un étudiant mobilité internationale, ça sera quelqu'un qui faisait ses études précédemment dans un pays étranger et qui a migré pour rejoindre l'enseignement supérieur français. Et puis, vient de se rajouter, pour avoir l'ensemble des étudiants étrangers, ces étudiants qui sont bien dans l'enseignement supérieur français, qui sont étrangers, mais qui avaient migré bien précédemment et qui avaient déjà poursuivi leur... qui avaient entamé leurs études au primaire, au collège ou au lycée, bien avant de rejoindre l'enseignement supérieur français. Et alors, quelques ordres de grandeur. Hein, on pourrait donner beaucoup de statistiques, mais je vais donner quelques éclairages importants. Donc, vous avez une forte augmentation du nombre des étudiants à mobilité internationale depuis le milieu des années 70. Un chiffre que je n'ai pas repris dans mes transparents, hein, pour la première fois en 2019, les titres de séjour pour étudiants ont dépassé les titres de séjour pour le rapprochement familial. Ils étaient toujours en nombre inférieur jusqu'à présent. Et en 2019, pour la première fois, les étudiants étrangers, les titres de séjour pour venir faire ses études en France est le principal motif en 2019. C'est environ 91 000 titres de séjour pour 88 700 pour le rapprochement familial. Donc on voit bien cette importance. C'est depuis 2019 le principal flux de migrants en France que ces étudiants en mobilité internationale. Alors, entre 1975 et 2011, leur chiffre a été multiplié par 5 et ça continue. Vous avez ici l'évolution entre 2011 et 2016 et vous voyez qu'il y a une progression continue de ce nombre d'étudiants en mobilité internationale, donc qui vont se former à l'étranger. Alors, il ne faut pas se tromper non plus. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez une part de plus en plus grande d'étudiants qui souhaitent quitter leur pays d'origine pour aller se former à l'étranger. Et ici, vous avez quelques éléments qui vont vous conforter dans ce point de vue. C'est que l'augmentation de ces étudiants en mobilité internationale, finalement, elle est comparable à l'augmentation du nombre d'inscrits dans l'enseignement supérieur au niveau mondial. Donc, entre 1980 et 1995, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur a été multiplié par 1,6, alors que celui des étudiants étrangers a été multiplié par 1,7. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un taux de plus en plus important d'étudiants qui souhaitent se former à l'étranger, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants au niveau mondial, et donc, mais leur part reste constante. Mais donc, en volume, ils augmentent de manière considérable. Alors, deuxième point, c'est d'où viennent ces étudiants étrangers. Ces étudiants étrangers, ils viennent principalement d'Asie. Vous l'avez à travers ce graphique qui vous donne la part, suivant les différentes zones géographiques d'origine, des étudiants étrangers. Vous voyez qu'en 2011, vous aviez à peu près 53% des étudiants étrangers scolarisés dans l'enseignement supérieur qui venaient d'Asie. 23,1% sont européens, 11,6% africains, 6,1% Amérique du Sud et puis 2,7% Amérique du Nord. Et j'ai mis en parallèle à ces pourcentages, finalement, le pourcentage des jeunes de 20 à 25 ans au niveau mondial selon leur origine. Et vous voyez qu'il y a, à part une différence, on va le voir au niveau de l'Europe, c'est à peu près équivalent, c'est-à-dire la part principale des étudiants étrangers viennent d'Asie, mais 63,4% des jeunes de 20 à 25 ans sont en Asie. D'accord ? La seule différence notable, quand même, c'est effectivement au niveau européen, où les jeunes européens de 20 à 25 ans représentent que 8,4% de cette population, alors qu'ils représentent 23,1% des étudiants étrangers scolarisés dans l'enseignement supérieur. Donc on voit bien que là, par contre, les étudiants européens ont tendance à beaucoup plus bouger que les autres zones géographiques. Alors, ce qui explique bien aussi qu'on va retrouver dans un grand nombre de pays, en premier dans les origines de ces étudiants étrangers, des pays asiatiques, et en particulier la Chine, qui est le principal fournisseurs d'étudiants étrangers au niveau mondial. Alors, après avoir vu d'où viennent ces étudiants étrangers, regardons où ils vont. Alors là, il y a une très forte concentration. Vous avez une très forte concentration, puisque vous avez 6 pays qui accueillent à eux seuls plus de la moitié des étudiants étrangers. Ces 6 pays, ce sont dans l'ordre décroissant, toujours des données de 2011, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc les États-Unis, avec plus de 16%, le Royaume-Uni avec 13%, l'Allemagne 6,3%, la France 6,2% et l'Australie 6,1%. Enfin, le Canada avec 4,7%. Alors, quand je vous dis que ça n'a pas beaucoup changé, ce qui change d'une année à l'autre, vous voyez, c'est ce trio-là, Allemagne, France, Australie, où on est entre 6,1 et 6,3%. Donc, d'une année à l'autre, il peut y avoir une petite différence à ce niveau-là. Mais vous avez toujours ces mêmes 6 pays qui arrivent en tête dans les pays de destination. Donc, il y a une forte concentration de ces étudiants, de la destination de ces étudiants en mobilité internationale. Et si on prend l'ensemble de l'OCDE, eh bien, on monte à pratiquement 77%. Donc, clairement, ils vont quand même s'éduquer dans des systèmes d'enseignement supérieur des pays développés. Donc, voilà un petit peu le contexte. Leur part qui a cru fortement, mais attention, finalement, au même rythme que le nombre de jeunes qui, en plus, sont dans l'enseignement supérieur. Avec une certaine hétérogénéité des pays d'origine et une forte concentration des pays de destination. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces étudiants en mobilité internationale, initialement, les enjeux pour les pays d'accueil n'étaient pas vraiment économiques. Ça n'a jamais été une variable, enfin, pendant longtemps, ça n'a pas été une variable économique importante à l'origine de la politique d'accueil des étudiants étrangers. On avait des objectifs plus traditionnels de rayonnement international et de développement culturel et autres. C'est-à-dire que ce qu'on voyait à travers cet accueil, on anticipait qu'ils retourneraient dans leur pays d'origine, et donc c'était les meilleurs vecteurs de diffusion de normes culturelles, économiques, voire politiques. Et effectivement, vous avez des travaux d'économistes qui ont essayé de mesurer leur contribution, par exemple, à la diffusion de normes démocratiques. Et clairement, on a bien vu qu'un certain nombre de pays ont basculé de régime autoritaire vers la démocratie, avec comme une des variables, ce n'est pas la seule, bien sûr, mais une variable explicative, le fait que une grande partie de leur jeunesse avait été formée dans des pays développés démocratiques. Donc, vous voyez, il y avait une dimension plus affaires étrangères, internationales, que enjeu purement économique. Et puis, il y avait, à travers quand même une petite dimension économique, c'était une forme d'aide au développement. Donc, ça rentrait dans l'aide au développement des pays d'origine, puisque effectivement, on formait des étudiants qui allaient alimenter la main-d'œuvre qualifiée des pays d'origine. Mais, c'est pour ça que j'ai mis un petit point d'interrogation, si toutefois ils retournent bien dans leur pays d'origine, c'est-à-dire que ça, c'est pas en réalité un phénomène de brain drain, de fuite des cerveaux, parce qu'on verra dans un des graphiques suivants, il s'avère que ils sont pas si nombreux que ça à retourner précisément dans leur pays d'origine, et donc c'est plutôt une fuite des cerveaux que d'alimenter une main d'œuvre qualifiée dans les pays d'origine qui se met en place. Et plus récemment, on est passé vraiment à des enjeux de politique économique pour les pays d'accueil, quand on s'intéresse à la politique d'attraction des étudiants en mobilité internationale. Alors, pourquoi c'est devenu un enjeu de politique économique et non plus d'affaires étrangères en quelque sorte ? Tout simplement parce que, mais ça c'est pas propre à la France, on a du mal parfois à le comprendre, mais dans un grand nombre de pays, je pense en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, en Australie, ces étudiants étrangers se révèlent être une source de revenus indispensable pour le financement du système d'enseignement supérieur. Parce que les droits d'inscription sont différenciés, suivant que vous êtes natif, que vous êtes étranger, et que les droits d'inscription sont très élevés pour les étrangers, et c'est eux qui financent en grande partie le système d'enseignement supérieur. Donc là, on comprend bien la volonté d'attraction des étudiants étrangers. En France, si vous ne savez peut-être pas, mais en France, jusqu'à une loi très récente, hein, de 2 ans, vous aviez les mêmes droits d'inscription pour tous les étudiants, qu'ils soient français, qu'ils soient européens ou extra-communautaires, et sans distinction de niveau de formation, licence, master. Depuis 2 ans, ça a changé, puisqu'effectivement, il y a une différenciation, une différenciation entre étudiants français et communautaires européens et les extra-communautaires qui, maintenant, ont des droits d'inscription plus élevés, mais qui, dans la réalité, ne payent pas encore ces droits d'inscription plus élevés. Alors, vous allez me dire, mais si la loi, depuis 2 ans, fixe des droits d'inscription plus élevés, et sensiblement plus élevés, hein, 10 à 15 fois plus élevés, c'est tout simplement parce que les universités ont la possibilité d'exonérer de droits d'inscription 10% de leur, un maximum de 10% de leurs effectifs. Et que toutes les universités françaises, quasiment, hein, ont appliqué cette possibilité pour éviter de faire payer ces droits d'inscription beaucoup plus élevés jusqu'à présent. Et ça vous montre bien que, vous voyez, ce n'est pas simple d'évaluer une politique économique, parce qu'on pourrait se dire, bah, tiens, c'est bizarre, depuis 2 ans, les droits d'inscription sont plus élevés pour les étudiants extra-communautaires, et on ne constate pas d'évolution significative ces 2 dernières années dans le nombre d'inscrits venant de ces pays extra-communautaires. Mais tout simplement parce que la loi est passée, mais elle ne s'applique pas, puisqu'il y a cette possibilité qui est offerte aux universités, qui existait bien avant la loi, hein, qui n'a pas été mise en place avec la loi, qui existait bien avant la loi, d'exonérer au moins 10%, enfin, au maximum 10% des étudiants. Donc, il ne suffit pas, hein, vous voyez, de dire, ah, il y a une loi, et puis tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien regarder son application, est-ce qu'elle s'est mise en place, est-ce qu'il y a eu des exemptions possibles, etc. etc. Alors, donc ça, c'est le premier point, mais le second point plus important, finalement, cette modification dans la perception de ce que peuvent apporter les étudiants étrangers, non plus auparavant avec leur retour dans les pays d'origine, mais maintenant pour les pays d'accueil eux-mêmes et d'un point de vue économique, cette nouvelle perception, elle est concomitante avec les effets du vieillissement démographique. C'est-à-dire que beaucoup de ces pays développés qui accueillent des étudiants étrangers subissent les effets du vieillissement démographique et sont donc confrontés à soit une baisse de leur main-d'œuvre, hein, importante, je pense au Japon ou à l'Allemagne, soit une stagnation, France-États-Unis. Et donc, ils vont essayer, à travers des flux migratoires, donc plus généralement des flux migratoires, de compenser cette disparition de la hausse de la population active. Et on s'est rendu compte que finalement, le meilleur moyen, c'était de les faire venir au moment de leurs études. Alors, pour diverses raisons, j'en cite 2 ou 3. La première, ils viennent pour se former dans notre système d'enseignement supérieur, donc ils seront qualifiés, hein, à l'issue de leur formation. Donc, on les fait venir pour des motifs d'études, mais on va essayer de les capter pour qu'ils restent. Et on aura donc une main-d'œuvre plus qualifiée, après, qui s'insérera sur le marché du travail. Et c'est un deuxième effet bénéfique, c'est qu'on sait que, justement, l'intégration, mais au sens économique du terme, hein, je ne renvoie pas à l'intégration qu'a développée Gérard Moreau, mais l'intégration sur le marché du travail est beaucoup plus aisée pour les immigrés qualifiés que pour les immigrés non qualifiés. Et puis, troisième argument, on sait également que plus vous avez un niveau de qualification élevé, plus votre contribution aux finances publiques est bénéfique. Et donc, si vous avez des immigrés qualifiés qui rentrent, vous avez nécessairement un effet plutôt positif sur les finances publiques. Donc, c'est un peu ça qui fait que au début des années 2000, vous avez ce changement de paradigme dans la politique d'accueil des étudiants étrangers qui fait que ces étudiants étrangers vont devenir une cible. Hein. Vous allez avoir des politiques d'attraction des étudiants étrangers, et comme l'a dit François Héran, dans ce grand marché mondial de ces étudiants. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors, je vous avais dit je vous présenterai quelques chiffres qui vous montrent que, contrairement à ce qu'on pense, ils ne repartent pas forcément dans leur pays d'origine, hein, et qu'ils vont bien, pour une part importante, rester dans le pays d'accueil pour rentrer sur le marché du travail. Ici, vous avez un petit graphique pour différents pays de l'OCDE qui donne 2 informations, qui vous donne la part des étudiants étrangers qui ont terminé leurs études et qui ont changé de statut. Par rapport à quoi ? Ben, par rapport, donc c'est les barres en vert, par rapport au total des étudiants ayant terminé leurs études. Donc ça vous donne ce qu'on appelle le taux de rétention. Hein. C'est-à-dire, par rapport aux étudiants étrangers qui ont terminé leurs études, combien sont restés dans le pays d'accueil ? Donc on ne va pas tous les voir, hein, mais parce qu'il y a des différences qui seraient intéressantes de développer, mais on n'a pas vraiment le temps. On va prendre juste le cas de la France, hein, c'était l'avant-dernière vers la droite. Et donc, si vous voyez le montant de la barre en vert, vous voyez que c'est un peu plus de 30%, donc un tiers. Hein. Donc, ça veut quand même dire que vous avez un tiers des étudiants qui ont terminé leurs études, étudiants étrangers, hein, qui ont terminé leurs études en France, et qui sont toujours en France en ayant changé de statut. Et deuxième chiffre, hein, qui est très évocateur à ce sujet-là également, vous voyez, c'est ce qui est représenté par... le petit cible qui est ici, c'est environ 40%. Ben, vous voyez que ces étudiants étrangers qui ont changé de statut en France, ils représentent 40% des titres de séjour accordés aux étrangers pour motif de travail. Donc ça veut quand même dire, vous voyez, que 40% des titres de séjour pour le motif de travail accordés aux étrangers en France ont été délivrés à des personnes qui étaient déjà présentes en France et qui étaient là pour se former et qui ont bien basculé dans le monde du travail. Hein. C'est un peu moins de la moitié, mais presque la moitié, c'est pas des. Vous voyez, c'est visa pour motif de travail. 40%, c'était pour des étrangers qui étaient déjà présents sur le territoire national, mais initialement au motif de se former. Donc, on a bien il y a une rétention relativement importante, et c'est une contribution également importante à la main-d'œuvre étrangère qui rentre sur le marché du travail français. Alors, donc oui, ça c'est un peu le contexte, c'est le contexte international, un petit survol pour bien voir dans quel contexte se met en place ces politiques d'attraction des étudiants en mobilité internationale. Et donc, comme je l'indique ici dans ce slide, hein, c'est vraiment cette politique d'attraction des étudiants en mobilité internationale va être au cœur de beaucoup de politiques migratoires. Alors j'essaie de la resituer au niveau français, c'est clairement un des instruments de la politique d'immigration choisie de Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, cette politique d'immigration choisie, hein, elle a été initiée lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il a poursuivi en tant que président de la République. Donc je vous rappelle, hein, rapidement, le but c'était d'augmenter... la part de l'immigration choisie. Et donc, c'est quoi l'immigration choisie ? Ben, c'est l'immigration de travail, c'est les étudiants, justement, mobilité internationale, et réduire la part de l'immigration subie, l'immigration subie étant le rapprochement familial, les réfugiés et autres. Alors, je ne discute pas des motivations hein, de la politique et encore moins des effets économiques qu'on pouvait en attendre, mais il est clair que dans cette politique d'immigration choisie, l'accroissement significatif du nombre d'étudiants étrangers inscrits dans l'université française était un instrument, un des instruments principaux. Pourquoi ? Parce qu'il avait un double avantage. Premier avantage, que j'ai développé précédemment, c'était le moyen le plus efficace à terme pour augmenter le travail qualifié dont avait besoin l'économie française. Et puis, un avantage que je n'avais pas évoqué tout à l'heure, il vaut mieux encore les former dans son propre système d'enseignement supérieur que de les faire venir juste après qu'ils aient été formés dans un autre système d'enseignement supérieur. Parce que le système d'enseignement supérieur français, il est configuré de telle manière qu'il va former les étudiants pour répondre aux besoins de la société et de l'économie française. Et ce qui n'est pas forcément le cas d'un autre système d'enseignement supérieur. Je prends un exemple très simple. Vous voyez bien qu'en droit, vous n'allez pas suivre les mêmes études de droit en Angleterre, c'est une autre conception du droit, qu'en France. Et donc, l'étudiant étranger qui aura été formé en Angleterre, si vous le faites venir en France pour travailler dans un cabinet d'avocat, il sera moins compétent que le même étudiant qui sera formé dans les universités de droit françaises. Donc, c'était un des autres avantages. Et là, pour reprendre les propos de Gérard Moreau tout à l'heure, on est dans le temps long de la politique. Hein. Ça, c'est l'objectif. Hein. C'est accroître cette main-d'œuvre qualifiée à travers les flux migratoires, mais pas en faisant venir des travailleurs qualifiés de l'étranger, enfin, pas principalement, hein, on continue bien sûr à en faire venir, hein, mais en visant cette possibilité via faire venir des jeunes qui veulent se former dans l'enseignement supérieur français, à travers tous les avantages que j'ai évoqués jusqu'à présent. Ça, c'est le temps long de la politique. Puis vous avez le temps court, qui est souvent le temps électoral. Hein. Quand vous voyez, vous mettez en place une politique comme celle-ci, qui est un des éléments moteurs de la politique d'ensemble de Nicolas Sarkozy, ben, il fallait assez rapidement mettre en évidence qu'elle portait ses fruits. Hein, et donc, il fallait qu'on le retrouve dans les statistiques. Et comme vous l'avez compris, hein, quand je vous ai dit que c'était un des principaux flux d'étrangers rentrant en France que ces étudiants en mobilité internationale, ben, vous voyez bien que si vous arrivez à faire augmenter ce nombre d'étudiants, vous pouvez plus facilement faire inverser la tendance entre immigration choisie et immigration subie. Et en sachant que cette politique, on s'attend à ce qu'elle soit plus efficace, c'est-à-dire qu'elle porte ses fruits plus rapidement et avec une ampleur assez conséquente que l'autre politique qui avait été menée d'attraction des talents. Hein. Finalement, des talents, il n'y en a pas tant que ça, donc ce n'est pas des flux. Et effectivement, les visas pour motifs de travail de personnes très qualifiées, il n'y en a pas eu énormément. Donc vous voyez, les statistiques, elles ne bougent pas. Alors que si vous arrivez à faire rentrer beaucoup plus d'étudiants étrangers, là, les statistiques, elles bougent et vous pouvez mettre en avant les résultats de votre politique de réduction de l'immigration subie. Alors, pour cela, plusieurs mesures ont été mises en place pour favoriser l'arrivée des étudiants étrangers dans le système d'enseignement supérieur français. Et c'était concomitant, hein, c'était une politique globale. Parmi ces mesures, elle visait principalement à simplifier les démarches administratives pour que les étudiants étrangers puissent rejoindre les universités ou les écoles françaises. Alors, ça s'est traduit par la mise en place de visas de long séjour, de valant titre de séjour accordés aux étudiants étrangers pour une durée d'un an. La mise en place de Campus France, hein, donc, qui va être un organisme public hein, français, qui vise bien sûr à favoriser l'arrivée d'étudiants étrangers en France, mais pas seulement, hein, qui vise aussi à développer le fait que des Français aillent étudier à l'étranger, des échanges entre chercheurs, entre enseignants du système d'enseignement supérieur, etc. Mais son objectif principal, même s'il en avait d'autres à Campus France, c'était d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers arrivant en France. Et à travers une procédure qui est la procédure études en France, qui visait à dématérialiser les candidatures qui maintenant se font en ligne, par Internet. Et on le verra, je préciserai plus en détail, hein, comment on a pu simplifier énormément ces procédures via études en France, et donc qui ont permis un traitement beaucoup plus rapide des dossiers et plus simple pour les candidats. Et puis, autre mesure, hein, et on voit bien que ça rentre dans le cadre de... Il faut faire en sorte qu'ils restent en France et qu'ils s'insèrent sur le marché du travail français. C'est à cette époque aussi où on va faciliter l'autorisation à travailler à titre accessoire durant leurs études et après leurs études. Hein. Donc, à l'issue de leurs études, ils ont aussi la possibilité d'acquérir une première expérience professionnelle en France. Et là, pour l'anecdote, hein, c'est là où on voit que le temps court électoral, parfois, il est très, très, très court. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien que cette politique Campus en France, initiée par Nicolas Sarkozy, cherchait à attirer le maximum d'étrangers. Et puis, en plein milieu de la campagne électorale présidentielle, bon, le thème de la migration était à nouveau mis en avant, mais d'un point de vue plus négatif. Et vous avez eu la circulaire Guéant qui, justement, rendait quasiment impossible le fait que les étudiants étrangers puissent rester en France pour avoir une première expérience professionnelle. Donc, ça paraissait très contradictoire et ça a beaucoup été discuté d'ailleurs par d'autres pays qui disaient bah, c'est génial, la France les forme très bien et elle les rejette vers nous pour qu'allons les accueillir dans nos marchés du travail nationaux. Alors, fin de la parenthèse. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que très bien, la France met en place cette politique d'attraction des étudiants étrangers via Campus France. Donc ici, vous avez le site Internet hein, de Campus France que les étudiants peuvent voir lorsqu'ils recherchent des informations pour venir étudier en France. Mais ce n'est pas une politique qui est propre à la France. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de pays développés, confrontés au vieillissement démographique, qui vont mettre en place des politiques migratoires favorables et qui vont viser en particulier les étudiants en mobilité internationale. Donc, juste toujours à titre d'exemple, hein, parmi les pays européens, on l'a vu, hein, le principal pays qui accueille les étudiants étrangers, c'est le Royaume-Uni. Et à la même période, hein, de 2006 à 2011, vous voyez, donc c'est concomitant, hein, Campus France, c'est 2007. Hein. Donc 2006-2011, vous avez l'initiative du Premier ministre qui est coordonnée par le British Council et qui injecte 33 millions de livres rien que pour faire de la communication auprès des étudiants étrangers pour qu'ils rejoignent les universités anglaises. Et ils avaient déjà un appareil assez performant, mais qu'ils ont développé à la même époque. Deuxième pays européen qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers, c'est l'Allemagne. Eh bien, là aussi, à la même période, elle va lancer des initiatives pour augmenter la communication à l'étranger pour attirer des étudiants dans les universités allemandes. Et c'est la mise en place du Gate Germany. À nouveau, vous avez le site là, sur le slide, qui va accroître les informations et faciliter les démarches pour les étudiants qui souhaitent rejoindre les universités allemandes. Et puis d'autres pays qui sont pas au même niveau dans l'accueil d'étudiants étrangers européens se lancent aussi dans cette concurrence. Hein. J'ai dit même pas d'une concurrence forcenée, hein, féroce entre les pays. C'est l'Italie. Vous voyez, c'est la même période. Hein. En 2010, se met en place une association qui s'appelle Uni Italia, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, et qui à nouveau, vous voyez, va faire de la communication à l'étranger pour inciter les étudiants à rejoindre les universités étrangères. Et pareil, même époque, 2009, vous avez le même type de politique qui se met en place en Espagne, avec moins de moyens quand même, moins de moyens, mais qui cherche à attirer des étudiants étrangers. Donc, la France n'est pas seule. Ce sont tous les pays développés qui se lancent dans cette grande concurrence. Et je crois que François Héran avait raison, hein, de ce marché mondial des étudiants pour en attirer le plus grand nombre, pour diverses raisons, mais en particulier pour ses objectifs économiques. Alors, on en arrive, c'était le contexte, hein, j'ai passé un peu de temps, mais on en arrive à l'évaluation de ces politiques. Ces politiques ont-elles été efficaces? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces politiques ont été efficaces? Ça veut dire qu'elles ont effectivement permis d'attirer, d'inscrire plus d'étudiants étrangers qu'il n'y en aurait eu sans la mise en place de ces politiques, de ces dispositifs, en particulier du dispositif études en France, de Campus France, à partir de 2007. Donc ça, c'est l'objectif. Alors, on voit déjà, c'est pas très simple. Hein. C'est pas parce que la France met en place Campus France qu'on va automatiquement voir le nombre d'étudiants étrangers inscrits en France augmenter. Pour nous en très simple, c'est que les autres pays aussi font des efforts importants pour les attirer. Hein. Donc c'est un marché concurrentiel. Donc il ne suffit pas soi-même de faire des efforts, il faut regarder ce que font les autres. Hein. Donc, et puis il y a d'autres, on va le voir, il y a d'autres raisons qui font que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que vous allez avoir beaucoup plus de candidatures via Campus France, via Études en France, que vous aurez forcément plus d'inscrits dans les universités françaises. Et c'est le point principal qu'on va développer par la suite. Alors regardons comment on peut essayer d'évaluer ce type de politique. Ce n'est pas simple parce que, comme vous voyez, comme je vous l'ai indiqué, il faut qu'on compare la situation effective, c'est-à-dire celle avec la mise en place de Campus France, avec le nombre d'inscrits qu'on aurait eu sans la mise en place de Campus France, c'est-à-dire un contrefactuel, hein, quelque chose qu'on ne peut pas observer. On ne sait pas combien on aurait eu d'étudiants, a priori, on ne sait pas combien on aurait eu d'étudiants inscrits dans l'université française s'il n'y avait pas eu la mise en place de Campus France. Et donc, dans ces évaluations de politique économique, toute la difficulté, ça va être précisément de mesurer ce contrefactuel, hein, c'est-à-dire quel aurait été, dans mon exemple concret ici, le nombre d'étudiants inscrits si je n'avais pas mis en place la politique. Parce que je sais quel est le nombre avec la mise en place de la politique. Alors, on va regarder ça en détail. Et je vais quand même bien préciser avant, pour le cas de Campus France, hein, mais je veux bien préciser avant les méthodes, hein, les méthodes qu'on utilise en économie pour évaluer les politiques économiques. Mais en général, hein, pas uniquement les politiques migratoires. Hein. Et alors, je ne vais pas faire un survol complet, hein, je n'ai pas le temps. Je vais me concentrer sur l'évaluation ex post, c'est-à-dire on mesure en ayant l'information après que la politique se soit mise en place, et pas l'évaluation ex ante, c'est-à-dire essayer de mesurer les effets attendus de la politique avant qu'elle se mette en place. Alors, dans cette évaluation ex post, comme je vous l'ai dit, le principal défi va être d'identifier, de mesurer ce contrefactuel, la situation qui aurait prévalu en l'absence du dispositif Campus France, études en France. Et comme je l'ai dit, ce contrefactuel, il n'est jamais observé. Donc il y a différentes méthodes, différentes manières pour essayer de l'estimer, de l'évaluer. Vous avez ce qu'on appelle les expériences contrôlées, qui elles relèvent des méthodes qu'on utilise dans le monde médical, et dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, malheureusement, avec la pandémie de la Covid-19, où maintenant je crois que tout le monde a bien compris ce dont je vais parler, tout le monde a entendu parler, plus ou moins, sur comment on a évalué l'efficacité des vaccins, contre la Covid. Et tout le monde a entendu parler, on a pris un échantillon d'individus, et là c'était des expériences contrôlées. À certains, on a injecté le vaccin, donc ça c'est la population traitée, et puis à d'autres, un placebo. On a évalué comment le virus s'est diffusé dans ces deux sous-populations, celles qui étaient vaccinées et celles qui n'étaient pas traitées, et qu'on appelle le groupe de contrôle. Donc ça peut se faire aussi en économie, mais il faut le faire un petit peu excentré avant la mise en place de la politique, et on va construire des échantillons, mais il faut que ces échantillons soient construits de manière aléatoire. Vous voyez, c'est-à-dire que vous ayez des individus qui ont les mêmes caractéristiques dans le groupe traité et dans le groupe contrôlé. Il ne faudrait pas que vous ayez que des personnes de plus de 65 ans dans le groupe traité et puis des jeunes dans le groupe de contrôlé, parce que vous voyez bien qu'il y aura un biais énorme sur l'efficacité du vaccin. Et puis, autre possibilité, mais ça, c'est très compliqué à mettre en place, en particulier au niveau médical, non. Mais pour tester, évaluer des politiques économiques, c'est plus compliqué. Et donc, généralement, on travaille non pas à travers ces expériences contrôlées, mais on travaille à travers des expériences naturelles. C'est-à-dire qu'on va observer ce qui s'est passé sur la population, mais dans son ensemble, et pas sur un groupe qu'on aura pu répartir de manière aléatoire. Donc, on va comparer des groupes d'individus qui sont séparés de manière non intentionnelle en termes d'accès au dispositif. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser des méthodes économétriques pour évaluer l'impact de la mise en place du dispositif. Alors, je ne rentre pas du tout dans les détails techniques. Il y a différentes méthodes, la méthode de ce qu'on appelle du diff-indiff, les doubles différences, variables instrumentales, l'estimation par discontinuité. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt de rentrer dans le détail. Mais néanmoins, peut-être celle qui va être utilisée dans le travail que je vais vous présenter, celle des doubles différences. Les doubles différences, c'est assez simple à comprendre. Vous voyez, dans ce petit graphique, en bas, j'ai l'évolution du temps, et puis en ordonnée, le nombre d'étudiants étrangers qui sont inscrits. Bon, je vais avoir l'évolution de mes étudiants qui sont exposés au dispositif. Alors, dans le cas qui va nous intéresser, ça va être ceux qui vont relever d'études en France, ceux dont le pays d'origine doit passer par études en France. Alors, c'est pas simple, vous voyez, parce que, 2007, mise en place de campus en France, ici, qu'est-ce que je peux dire en regardant simplement cette évolution Ça a augmenté avant et ça continue à augmenter après. Alors, peut-être un peu plus, mais ça peut venir d'autres phénomènes que celui de campus France. Vous voyez toute la difficulté. Il ne suffit pas de dire, le nombre d'étudiants a bien augmenté après. Ça peut être pour d'autres raisons que celle de campus France. Et de toute façon, ils avaient aussi augmenté avant. Okay, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un autre groupe d'étudiants, qu'on appellera le groupe d'étudiants de contrôle, qui, eux, ne sont pas exposés au dispositif. Et dans le cas de Campus France, c'est possible. Dans le cas de Campus France, c'est possible, parce que, comme on va le voir, Campus France, ce n'est pas appliqué à tous les pays d'origine. Campus France, c'est appliqué à quelques pays d'origine. Il y en a 34, je crois. Enfin, en 2016, il était environ 34-35. Donc, c'est très loin des 190 et autres pays possibles. Et donc, vous voyez bien qu'il y a plein d'étudiants étrangers qui vont s'inscrire en France et qui ne passent pas par le dispositif études en France. Donc, je peux bien avoir un groupe d'étudiants de contrôle et un groupe d'étudiants exposés au dispositif. Et en ayant ce groupe d'étudiants de contrôle, je vois comment ils ont évolué au cours du temps. Et bien, je peux en déduire, je vois bien que ça a évolué d'à peu près de la même manière. Avant la mise en place du dispositif, c'est une bonne séparation, ça a évolué à peu près de la même manière. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Vous voyez, le contrefactuel, on va le construire comme ça. Ben, on va dire, il n'y a pas de raison qu'après, ça évolue de manière différente. Donc, on va pouvoir construire l'évolution de la courbe qui est en rouge de la même manière que celles qui étaient en verte. Et donc voilà comment ça aurait dû évoluer sans la mise en place de Campus France pour ce groupe d'étudiants. Voilà comment on va construire le contrefactuel. Et puis, pour un moment donné, eh ben, la différence entre ce que je constate comme nombre d'inscrits effectifs et ce que j'ai calculé comme étant devant être le nombre d'inscrits que j'aurais eu sans la mise en place de la politique grâce à ce que j'ai pu constater sur le groupe d'étudiants de contrôle, ben ça me, vous voyez, cette différence, ça me donne l'impact de, à un moment donné, l'effet moyen de la mise en place du dispositif. Oui, c'est assez simple, mais toute la validité va reposer sur la rigueur avec laquelle on va pouvoir construire ce contrefactuel, c'est-à-dire ce qui serait passé sans le dispositif. Donc, ben, on a appliqué avec mon collègue Michel Benn, de l'Université de Luxembourg, cette méthode hein, de la double différence. Alors, c'est même plus compliqué, il y aura la triple différence ici, mais je ne rentre pas dans le détail, sur la mise en place de la procédure études en France, hein, de Campus France, pour les inscriptions dans les universités françaises. Et pour ceux que ça intéresse, c'est un document de travail qui va sortir d'ici la fin mars, document de travail du CEPI. Alors, donc, tout le monde a bien compris, hein, l'objectif de Campus France, c'est d'augmenter l'accueil des étudiants étrangers dans les universités françaises. Je ne reviens pas sur les motivations. Comment ? En simplifiant le processus de candidature pour les étudiants étrangers via cette procédure études en France, hein, qui est très simple hein, pour les étudiants étrangers. Elle s'est matérialisée par la création de centres hein, donc physiques hein, pour les études en France dans un certain nombre de pays. Donc c'est ça qui est important. Hein. Tous les étudiants étrangers ne passent pas par études en France. Seuls passent par études en France ou ont accès à études en France les étudiants dont le pays est éligible, c'est-à-dire le pays qui a un centre études en France. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce ne sont pas les pays qui sont candidats, hein, ce ne sont pas les pays étrangers qui sont candidats pour que leurs jeunes ressortissants puissent s'inscrire dans une société française. C'est le ministère des Affaires étrangères française qui décide des pays qui devront passer par Campus France. Donc ça a permis une harmonisation, une numérisation, tout passe par Internet, une centralisation de processus de candidature. Donc maintenant, pour un étudiant, c'est très simple, hein, il fait son dossier et puis il coche les universités, enfin les formations qui l'intéressent. Alors avant, il y avait un grand nombre, il pouvait cocher 15 formations, c'est limité à 7 maintenant, hein, il peut cocher 7 formations qui l'intéressent. Et puis, il suit les décisions prises par les universités dans le traitement de son dossier. Alors, en plus, c'est un guichet unique, c'est-à-dire que là, j'ai parlé pour les candidatures dans les différentes universités françaises, mais également, c'est avec le même portail qui va faire toutes les démarches administratives pour le visa et autres. Hein, donc, ça simplifie énormément les choses. Il y a un entretien individuel. Vous voyez, c'est pas juste je clique sur Internet. C'est-à-dire qu'une fois que le dossier est complet, le candidat étranger va être reçu dans le centre pour les études en France par des personnes du ministère des Affaires étrangères, enfin, des personnes du consulat ou de l'ambassade, et qui vont avoir un entretien avec lui et qui vont tester un peu ses motivations, son projet universitaire, professionnel. Et les comités de sélection dans les universités auront connaissance de cet entretien, hein, auront un résumé de cet entretien. Autre élément, ben, en simplifiant l'obtention du visa étudiant et en diminuant le coût, c'est-à-dire que le coût du visa est diminué de 50% si vous passez par études en France. Ce qu'il faut bien noter également, c'est quand même que la sélection académique reste au niveau des universités. Hein. C'est les comités de sélection des formations universitaires qui décident d'autoriser l'inscription ou pas. Et ce n'est pas parce qu'elles ont autorisé l'inscription qu'il va forcément venir parce qu'il peut ne pas avoir son visa pour d'autres critères. Et puis, donc, ce programme a débuté en 2007 hein, avec des centres études en France dans 19 pays. Et puis, il y a eu une augmentation progressive du nombre de pays éligibles. On était à 35 pays en 2016. Alors, on va voir dans une carte qui va suivre, c'est les pays qui étaient les principaux fournisseurs d'étudiants étrangers en France. Hein. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est également que les universités ne sont pas automatiquement rattachées à Études en France. C'est une participation volontaire des universités. Et au début, ben, elles étaient 49, c'est-à-dire quand même une très grande majorité des universités françaises, mais pas toutes les universités françaises. Il y avait une certaine réticence, parce que les universités craignaient un peu que il y a une espèce de présélection qui soit faite par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, il voulait garder le contrôle absolu sur des critères purement académiques du recrutement de leurs futurs étudiants. Mais bon, ces craintes se sont un peu dissipées, puisque en 2007, vous avez 66 universités, et c'est encore plus aujourd'hui, hein, je ne sais pas exact. Si, la petite carte dont je vous parlais. Hein. Donc, les pays dont les frontières sont en rouge sont des pays qui sont rattachés à études en France, et la couleur des pays, plus ils sont rouges, plus ce pays a une part importante dans le total des étudiants étrangers. Hein. Donc, le plus important étant le Maroc, et il représente 12,6% des étudiants étrangers en France. On voit bien qu'après, vous avez juste la Chine. Et vous voyez bien que, bah, du coup, les pays dont les frontières sont en rouge sont également les pays qui sont le plus à l'origine d'étudiants présents en France. Donc, ils n'ont pas été choisis de manière aléatoire, ces pays étrangers. Hein. Et ce sont les pays qui fournissaient la plupart des étudiants étrangers en France. Donc, pour vous en convaincre, ici, vous avez l'évolution hein, entre 2007 et 2016 du nombre de pays hein, qui sont éligibles à études en France, du nombre d'universités qui se sont inscrites, en quelque sorte, au processus études en France, et ce que ça représente comme flux des étudiants étrangers. Vous voyez, donc, à l'origine, c'était 46% du total du flux d'étudiants étrangers venant en France, et en 2016, on était à plus de 65%. Donc, ça, c'est une part non négligeable. Donc, ça veut dire, vous voyez, mon effectif, là, les étudiants traités, c'est 65% du total des étudiants étrangers qui viennent en France. Et donc, mon groupe de contrôle, ça va être à peu près 35% du reste des étudiants. Alors, pourquoi ce n'est pas aussi simple que de se dire, bon, ben, on voit bien que toutes ces mesures, elles facilitent fortement les candidatures, et il y aura automatiquement, et ça s'est vérifié, hein, des entretiens avec les gens de Campus France, le nombre de candidatures a fortement augmenté avec la mise en place du processus, de la procédure études en France, et en particulier le portail Internet, où ça rendait les choses beaucoup plus simples. Pourquoi ça ne se traduira pas mécaniquement par beaucoup plus d'inscrits dans les universités françaises? Parce que justement, les inscriptions, ça relève d'un équilibre, en quelque sorte, entre une demande venant d'étudiants. Alors la demande, elle augmente, hein, clairement, il y a de plus en plus d'étudiants avec cette facilité octroyée par Campus France, qui candidate, mais d'une offre, les universités, elles ont des capacités limitées et elles sélectionnent les étudiants. Elles ont toute liberté pour sélectionner les étudiants étrangers. Autant elles sont contraintes pour les étudiants français, avec Parcoursup, il y a un peu plus en plus de sélection malheureusement, mais elles ne peuvent pas vraiment sélectionner les étudiants français, mais elles peuvent sélectionner comme elles le souhaitent les étudiants étrangers. Elles n'ont aucune obligation de ce point de vue-là. Donc, vous voyez bien que si cette procédure elle a permis d'augmenter le nombre de candidatures, bah, tout va dépendre de la manière dont ont réagi les universités. Elles ont très bien pu accroître la sélection, oui, en se disant bah, « j'ai plus de candidats, mais donc un peu plus qui ont une bonne formation initiale, et donc je ne vais pas en prendre plus, je vais en prendre autant, mais qui sont mieux formés. » D'accord ? Donc, une plus grande sélection. Ou alors, elles ont des contraintes de capacité. Elles ne sont pas en capacité de pouvoir inscrire beaucoup plus d'étudiants. Donc, vous voyez, hein, donc soit elles butent sur cette contrainte de capacité, soit elles ont cette préférence pour les petits effectifs et elles prennent les meilleurs des étudiants qui candidatent. Et donc, ça tombe bien, ils sont plus nombreux à candidater, donc il y a une part plus importante de bons candidats. Je vais inscrire dans cette part de bons candidats. Et puis, bon, on voit bien que cette importance de la sélection, elle dépend d'une université à l'autre, hein, et que les universités de bonne qualité, elles feront une sélection a priori plus importante que les autres universités. Alors, j'ai bientôt terminé. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a cherché à évaluer? On a cherché à évaluer trois choses dans ce travail. Donc, l'impact global sur les inscriptions. Est-ce qu'effectivement ou pas, la mise en place de Campus France et de sa procédure études en France a permis d'augmenter le nombre total d'inscrits d'étudiants étrangers dans le système d'enseignement universitaire français? Est-ce qu'il y a une hétérogénéité selon les différents types d'universités? Et puis, comment se situe le rôle des contraintes de capacité à ce niveau-là? C'est-à-dire, si effectivement, et je vous donne déjà le résultat, ça s'est bien traduit par une augmentation importante des étudiants étrangers, sensible, des étudiants étrangers. Peut-être que ça s'est fait au détriment d'autres sous-populations étudiantes et qu'il y a eu des effets d'éviction. Donc, c'est ce qu'on a cherché à mesurer également. Alors, comme je vous l'ai dit, la méthode, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure, celle des doubles différences. Mais là, elle est triple, parce que vous avez vu que les universités, la troisième dimension, c'est les universités. Elles sont libres ou pas d'adhérer à Campus France. Donc, on dispose des données des étudiants inscrits par université, par niveau de formation, selon le pays d'origine. Et puis, quelque chose de très important, également selon le bac qu'ils ont, enfin, l'équivalent du bac qu'ils ont obtenu. Donc, ça nous permet bien de différencier parmi l'ensemble des étudiants étrangers les étudiants en mobilité internationale, donc ceux qui étaient susceptibles de passer par études en France. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les inscrits, je vais pouvoir distinguer l'étudiant marocain, mais qui a eu un bac français, donc qui était bien en France avant de candidater dans une université française, de l'étudiant marocain qui a eu l'équivalent du baccalauréat dans son pays d'origine ou ailleurs, peu importe, mais pas en France. Donc, il a bien migré dans l'optique de rejoindre le système d'enseignement supérieur français. Donc, 74 universités, on en a enlevé quelques institutions, en particulier les grandes écoles, parce qu'ils ont un système assez différent. Même s'ils rejoignent Campus France, ils utilisent leur propre système de sélection. Et 188 d'origine, dont 35 qui participent à la procédure. Alors, les résultats. J'en aurais terminé. Résultat, quant à l'impact global sur les inscriptions, eh bien, ce que montre notre étude économétrique, c'est que la mise en place d'études en France, dans le cadre de Campus France, a bien eu un effet positif sur le nombre d'inscrits pour les couloirs traités, c'est-à-dire pour les pays qui dépendent d'études en France vers les universités qui sont bien inscrites à études en France. Et ces résultats, ils suggèrent un effet positif d'environ 8% en moyenne. Donc, ça veut dire que, si on reprend le petit graphique de tout à l'heure, l'écart entre le contrefactuel, ce que j'aurais eu sur Campus France et ce que j'ai avec Campus France, c'est environ 8% en plus avec Campus France. Alors, il faut faire un petit peu attention, je ne vais pas trop détailler ça, mais vous voyez bien que ça ne vous dit pas qu'il y a 8% d'inscrits, de flux supplémentaires chaque année. C'est un 8% sur un effet moyen de stock. Parce que l'étudiant qui, en 2012, rentre via Campus France, qui vient du Maroc, qui rentre dans Campus France en première année dans l'université française, en 2013, il sera toujours dans nos données, mais il sera en deuxième année, mais il ne passe plus par Campus France, puisque Campus France, c'est que quand vous quittez votre pays pour venir en France. Après, il a les mêmes procédures que les étudiants nationaux, une fois qu'il est rentré en France pour se former. Donc, oui, il y a un effet de stock qui se fait. Cet étudiant-là, on va le retrouver dans les années qui vont suivre par la suite. Donc, ce n'est pas que le flux de chaque année. Et puis, on a fait ce qu'on appelle, dans ce type d'évaluation de politique publique, un placebo, comme dans le milieu médical. C'est-à-dire, on l'a fait pour une population qui, a priori, ne devrait pas être affectée par Campus France pour bien vérifier que ça n'a pas d'effet. Et donc, on l'a fait pour les étudiants en thèse, puisque les étudiants qui s'inscrivent en thèse, ils ne passent pas par, même s'ils sont à l'étranger, ils ne passent pas par la procédure. Ceux qui sont à l'étranger ne passent pas par études en France. Ils s'adressent directement aux universités, mais pas via la plateforme études en France. Et effectivement, quand on regarde les évolutions de ces flux d'étudiants inscrits en thèse venant d'étrangers, eh bien, la mise en place de Campus France n'a aucun effet. C'est le placebo. Alors, pour terminer, est-ce qu'on retrouve cet effet positif dans toutes les catégories d'universités ? Alors, qui dit catégorie ? Comment on les a catégorisées ? En distinguant les universités, alors c'est un peu une terminologie qui est fluctuante en France actuellement, mais aujourd'hui, on parle des universités de recherche intensive des autres. Les autres, elles font aussi de la recherche, mais pas de manière aussi intensive. Donc, distinguer les sociétés de recherche intensive des autres universités. Pourquoi ? Parce que ces universités les mieux classées, de recherche intensive, elles ont tendance à privilégier la recherche par rapport à l'enseignement et elles préfèrent les petits effectifs. Donc, elles vont faire plus de sélection que ne le font les autres universités. Et donc, on s'attend, mais à vérifier, que finalement, il y a eu moins d'impact positif sur le nombre d'étudiants étrangers inscrits via Campus France, dans ces universités-là, que dans les autres universités. Alors, comment on fait cette distinction ? Eh bien, on a utilisé le classement de Shanghai, qui est un classement qui justement cherche à classer les universités au niveau international comme mesure de la qualité. Et ce que montrent nos résultats, c'est que, effectivement, la procédure études en France, la mise en place de Campus France, a eu un effet quantitatif beaucoup plus faible sur les meilleures universités. Et même pour les universités qui se situent dans les 100 premières du classement, ça n'a eu aucun effet. Donc, on voit bien que ce qu'on craignait, enfin, ce qu'on pouvait craindre, ça ne s'est pas produit sur l'ensemble des universités. mais ça s'est produit sur un sous-groupe qui sont les universités de recherche intensive, qui n'ont pas augmenté leur nombre d'étudiants étrangers. Alors, ils l'ont augmenté dans les chiffres, mais il n'y a pas cet effet spécifique de la mise en place de Campus France. Très bien. Et alors, pareil, hein, on pourrait dire, oui, mais pourquoi Shanghai, etc. Donc, on a fait le même type d'études économétriques, de tests économétriques, en utilisant d'autres indicateurs de qualité, en particulier sur se fondant sur, c'est la période à laquelle se mettent en place les plans d'investissement d'avenir, hein, et donc la mise en place des universités d'excellence, des IDEX, les ISIT. Et donc, même en utilisant d'autres critères que le classement de Shanghai, on trouve exactement le même résultat. Alors, et là, j'en ai terminé. Ces résultats, donc, ils suggèrent bien que la plupart des universités, en dehors des meilleures universités, celles qui sont dans le top 150 mondiales, françaises, elles ont augmenté, sous l'effet de la mise en place d'études en France, le nombre d'étudiants étrangers venant de ces pays qui dépendaient de Campus France. Alors, qu'est-ce que cela ça signifie en termes de contraintes de capacité? Vous voyez bien qu'il y a trois possibilités. Hein, donc, ils ont accru le nombre d'inscrits étrangers venant de ces pays. Alors, si ça a pu se faire, c'est peut-être parce que leur capacité, finalement, une partie était inutilisée. Et elles ont pu accueillir plus de monde parce qu'elles avaient de la place, elles avaient les enseignants qu'il fallait, ou peut-être qu'elles l'ont fait, mais au détriment d'autres catégories d'étudiants, et en particulier peut-être en évinçant un certain nombre d'étudiants natifs, ou au contraire d'étudiants étrangers, mais qui ne relèvent pas de la procédure études en France. Donc ils auraient sélectionné en quelque sorte des étudiants sur lesquels du coup ils avaient plus d'informations. Hein. Rappelez-vous, il y a des entretiens, et ce qui est difficile à mener sur tous les étudiants qui candidatent. Est-ce que, donc, il y a un certain nombre de travaux hein, qui ont été menés à ce sujet-là. Aux États-Unis, Borjas donc, a beaucoup travaillé sur l'économie des migrations, a travaillé aussi sur cette question-là, et a montré qu'il y avait plutôt un effet d'entraînement, c'est-à-dire que l'augmentation des étudiants étrangers aux États-Unis a eu plutôt tendance à accroître le nombre d'étudiants américains inscrits dans les universités américaines. Même résultat au Royaume-Uni, hein, effet d'entraînement pour les étudiants en master dans les universités britanniques. Donc, plus vous aviez d'étudiants étrangers qui s'inscrivaient dans les masters britanniques, plus vous aviez d'étudiants britanniques qui eux-mêmes s'inscrivaient dans ces masters. Alors, l'explication, vous voyez, États-Unis, Angleterre, le système est payant, et donc les étudiants étrangers payent beaucoup plus que les étudiants nationaux, d'où une explication possible de cet effet d'entraînement. Hein. On a pu accueillir plus d'étudiants natifs parce que justement, on a accueilli plus d'étudiants étrangers, donc beaucoup plus de droits d'inscription, ce qui ont permis d'accroître les capacités d'accueil, y compris les étudiants natifs. Ce mécanisme-là, il ne marche pas en France. Hein. En France, on ne peut pas avoir ce mécanisme-là parce que, même avec le changement de la loi d'il y a 2 ans, ça ne vous donne pas beaucoup plus de ressources en accueillant beaucoup plus d'étudiants étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on l'a fait, alors, bien sûr, pas sur l'ensemble des inscrits. Hein. On l'a fait uniquement au niveau des inscrits en deuxième année de master. Il y a eu une réforme en 2017, mais rappelez-vous, nous, c'est avant 2016, hein, 99-2016. Et donc, avant cette réforme de 2017, vous aviez une sélection très forte à l'entrée du M2, alors que vous aviez une sélection, pratiquement pas de sélection à l'entrée du M1, première année de master. Donc, nous, il fallait bien que ce soit l'endroit où se fait la sélection. Hein. Donc, on l'a fait au niveau du M2. Très difficile de le faire au niveau de la licence, hein, parce qu'au niveau de la licence, vous voyez, les natifs, tous les bacheliers français doivent avoir une place dans l'enseignement supérieur. Donc, vous ne pouvez pas faire d'effet d'éviction. Hein. Donc, on l'a bien fait à un niveau où c'était possible. Et qu'est-ce que ça montre? Ben, il n'y a pas eu d'effet d'éviction. Il y a eu un effet d'entraînement. Pas d'effet d'éviction, mais un effet d'entraînement. On a eu plus d'étudiants inscrits étrangers venant de ces pays qui relèvent de Campus France, mais ça ne s'est pas fait au détriment des étudiants français ou au détriment des étudiants étrangers venant d'autres pays que ceux alloués à Campus France.
Lionel, est-ce que je peux te demander de songer à conclure?
Ben voilà, tu vois,
te rapproches de la conclusion, voilà, merci.
Conclusion, et la conclusion, je peux même aller très très vite, hein, puisque ça reprend les éléments que j'ai évoqués. Hein. Donc, le programme Campus France a bien réussi à attirer plus d'étudiants étrangers en France. Néanmoins, ça ne s'est pas fait de manière homogène dans toutes les universités. On n'a pas eu cet effet positif dans les meilleures universités françaises. Et ça ne s'est pas fait au détriment des étudiants natifs ou des étudiants étrangers qui ne passent pas par Campus France. Donc voilà un petit peu, vous voyez, un exemple d'évaluation économique d'une politique migratoire bien, bien ciblée. Et j'en ai terminé. j'en ai terminé à ce moment, François.